S'il y a un truc, tu me dis à la limite, si tu fais une blague raciste à un moment, tu veux pas que ça apparaisse, tu me dis hop, coupe là.
Si tu commences à déborder sur comment je détourne la fiscalité.
C'est vrai que Zemmour, il dit pas que des conneries. Hein.
Il arrive que.
C'est ça. Eh ben, bonjour à tous, donc bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Time Booster, donc, où je vous donne les meilleurs conseils pour pouvoir optimiser votre temps et en profiter pleinement. Et aujourd'hui, épisode un peu spécial puisque je suis avec quelqu'un que je connais d'avant pour une fois. Je suis avec Clément. Et déjà Clément, voilà, bon, ça fait un petit moment qu'on discute déjà, mais comment ça va? Comment tu te sens là?
Ça va plutôt pas mal, hein. Fin de journée. Un petit peu épuisé quand même, parce que c'est le début de la semaine et puis il y a beaucoup de choses à faire sur le reste de la semaine, c'est cool.
Bah ouais, j'avoue, on est là en plus dans tes magnifiques bureaux parisiens, proches du centre. Impeccable.
Ouais, on est bien. En plus, il n'y a plus personne.
Ouais, j'avoue. C'est un peu plus calme. C'est vrai que là, c'est ce que je t'ai dit en arrivant, on n'est pas sur le cliché de la start-up où à 20h, il y a encore la moitié des gens.
Exactement, c'est parce que je savais que tu venais, du coup, on s'est fait un peu
plus calme. Bah voilà, c'est ça, mais non, dégagé, sinon ça part de la mauvaise pub. Non. Eh bien, écoute, je vais commencer, donc c'est un peu la coutume que j'essaie d'instaurer dans ce podcast, par un petit portrait pour te présenter comment je te connais et tout ça, et du coup, tu pourras me dire ce que t'en penses. Alors, du coup, d'abord, Clément, je suis, comme j'ai dit, ravi de t'avoir dans cet épisode de podcast, parce que, du coup, c'est la première fois que j'interview quelqu'un que je connais d'avant, et du coup, pour les autres, donc si on fait le petit point... copain d'avant, hein. Donc on a étudié dans la même classe préparatoire scientifique à Toulouse, à Bellevue, c'est pour ça. Ceux qui connaissent, c'est Bellevue. Donc c'était une période chargée en émotions, entre le phrasé embourgeoisé mais plutôt drôle de notre professeur de physique, Madame Safa, dédicace.
Je ne sais pas, mais on ne sait jamais. C'est clair.
L'école de maths, bien sûr, où on se faisait défoncer, là j'ai pas trouvé le mot plus approprié, pendant une heure devant un tableau noir, les repas aussi dans nos chambres étudiantes, dans la résidence, où il y avait plus de personnes que de mètres carrés dans les fioles. Donc voilà, c'était une bonne époque, et au terme de ces concours, voilà, on a tous pris le chemin vers la Sainte École d'ingénieur, hein, la raison même du partiel sacrifice de notre vie sociale. Et à partir de là, on s'est croisé une fois à Grenoble, viteuf, pendant les fameux événements...
pour les Olympiades, c'est ça?
Là où fallait élire les représentants des étudiants, je me souviens plus comment ça s'appelle, le BDE.
Le BDE, c'est trop loin maintenant, l'école d'ingénieurs.
J'en perds mon terme, quoi. Mais après, comme ça arrive souvent, on s'est un petit peu perdu de vue, etc. Mais quand même, on a pu se revoir à l'occasion d'une bière fin d'année dernière, avec notre pote Yanis qui allait se faire plaisir en Argentine. En plus, il était là-bas quand l'Argentine a gagné contre vous savez qui. Voilà, on va pas faire de débat.
C'est vrai que j'avais pas pensé à ça.
Il s'est mis bien. Enfin, bon, bref.
Bon, lui regardera peut-être. Hein? Lui regardera peut-être par contre.
Mais en tout cas, mine de rien, sur LinkedIn, j'avais quand même déjà vu avant quelques posts liés à ta nouvelle activité. Normal, faut communiquer hein, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte. Je crois que tu es une des seules personnes que je connais qui entreprend. Je parle d'entreprendre au sens large, c'est-à-dire même faire un projet à côté comme je le fais, être finance et mine de rien. Et aussi, en plus, là, avec une start-up, donc beaucoup de responsabilités et un projet qui a vraiment un impact social. Et en vrai, c'est quelque chose que moi, je respecte énormément. Même je l'ai vu au travers des interviews que j'ai pu consommer là de toi avant de venir. C'est vraiment ta dévotion à cet intérêt commun, quoi, à un travers Unico. Donc, chapeau pour ça.
Merci.
Et aussi, j'ai une citation de Mark Manson, c'est un auteur assez connu que j'aime bien. Il a dit à un moment, être heureux, c'est pouvoir choisir ses problèmes. En fait, cette citation, je me dis que du coup, en tant que CEO de cette startup là, tu dois être très très heureux. Actuellement.
Ouais, ça va. Quand tu prends un petit peu de hauteur et que c'est la fin de la journée, t'es heureux. Après, t'as des hauts, des bas. C'est toujours un peu les montagnes russes entrepreneuriat, enfin surtout quand tu te lances dans la startup et dans tes débuts. Bon, je pense qu'on en reparlera, mais c'est super intéressant comme citation. Ça montre bien que effectivement t'as des problèmes, mais qu'il faut savoir un peu les contourner ou à minima y aller de plein gré. Bon, en tout cas on y va de plein gré là, ça c'est sûr.
C'est ça, on y go. Du coup, bon, forcément, pour présenter quand même un petit peu ce que tu fais, je pense que c'est bien de présenter Unico, mmh. Du coup, que tu as lancé quand tu étais encore en école d'ingénieur. Est-ce que tu peux dire, voilà, globalement, pour ceux qui connaissent pas, bah, voilà, quelle est votre mission?
Ouais, bah, en deux mots, chez Unico, on développe des solutions logicielles à destination des collecteurs de déchets et des acteurs de la propreté urbaine. Donc, en fait, c'est des services à l'environnement ils sont souvent la compétence des collectivités territoriales, donc collectivités de communes, métropoles, agglo, et des villes quand on parle de propreté urbaine. Donc, ça, c'est un peu plus les laveuses et les balayeuses qui se baladent dans ta ville. Et concrètement, on leur apporte des solutions digitales qui sont sous la forme d'ERP, de logiciels type boîte à outils pour le gestionnaire.
ERP, peut-être tu peux expliquer parce que pour moi, ouais, c'est clair. Mais...
Ouais, ERP, on l'utilise même pas en plus dans les démarches commerciales, ce terme, parce que ça fait un petit peu peur aujourd'hui. On parle plus de plateforme web, de logiciels de gestion, de solutions logicielles. Mais en gros, c'est l'idée d'avoir, c'est Energy Resources Planning, c'est l'idée d'avoir dans un seul outil toutes les clés ou les fonctionnalités propres à un service ou à une activité assez particulière. Dans, en l'occurrence, le métier de la gestion des déchets. Et nous, on a deux interfaces, donc une solution logicielle Unitech en SaaS qui est à destination du gestionnaire et qui a vocation à faire de l'optimisation de tournée, faire du recensement de bac, avoir un peu d'analyse et de planification aussi sur ce que tu peux avoir en termes de performance de collecte, avec la réglementation qui évolue, les contraintes techniques, environnementales, financières, bon, un peu tout ce qu'on peut imaginer. Et en parallèle, on a une petite application pour les chauffeurs, donc dans les camions, où c'est une espèce d'équivalent de Waze, mais dédié au métier de la collecte des déchets. Et voilà, globalement, notre mission, c'est de dire que ces métiers qui sont d'ailleurs très souvent sous-valorisés, ou en tout cas pas très sexy, mais qui ont un réel impact environnemental, voire social, parce qu'il y a aussi des gens derrière qui sont directement impactés par... par ce travail au jour le jour. Bon, on l'a vu pendant les grèves à Paris, il n'y a pas si longtemps.
Oui, c'est ça que j'allais dire. Ouais. C'est que là, clairement, là, tu vois qu'il y en a qui font des jeux vraiment essentiels et qu'il y en a, bon, parfois, ils passent du temps sur Excel, mais bon.
Ouais, ils passent du temps, c'est clair. Bah, typiquement, ça... ils passent encore du temps sur Excel, hein, ces gens-là, quand même, les gestionnaires. Et d'ailleurs, il y a du Excel, il y a beaucoup de papier, il y a beaucoup d'expérience terrain. Mais on arrive un peu à un cap où on a des enjeux environnementaux, des pressions économiques, et une complexité d'un point de vue technique, de recyclabilité, de objectif de tri, etc., qui est telle que on a besoin de se numériser, en tout cas sur une certaine partie, pour atteindre un petit peu tous les milestones qu'on s'est fixés. Et du coup, avec Unico, on essaie de participer à ça en gardant une emprise terrain qui est assez forte, en disant on est des experts déchets qui utilisent les solutions logicielles pour répondre à une problématique environnementale, sociale, etc., plutôt que des pros du soft qui profitent un peu de la fibre déchet pour avancer. Bon, en tout cas, on essaie de tirer notre épingle du jeu. Et puis Nicolas, c'est une boîte de 18 personnes, trois cofondateurs qui viennent de l'école dans laquelle moi j'ai commencé.
INP,
notamment INP Grenoble, ouais. Jules et Colin, et des clients et collaborateurs qui sont plutôt contents, je pense, stimulés, passionnés, donc c'est très cool.
Bah, top, très bonne présentation. Bon, attendez pas moins. Effectivement, ce podcast, il est un peu plus dédié à l'organisation. Et déjà, j'aimerais un petit peu savoir, c'est quoi pour toi l'organisation? Tu devais définir l'organisation.
J'ai jamais vraiment pensé, mais pour moi, c'est l'ensemble des ressources, des méthodologies, des process que tu vas mettre en œuvre pour faire en sorte d'être le plus efficace et qualitatif possible par rapport à un objectif que tu t'es fixé. Alors, un objectif, ça peut être tout et n'importe quoi. Je pense qu'en termes d'organisation, nous, on parle d'organisation de projet, on parle d'organisation technique, on parle d'organisation même en termes de collaboration au sein d'une équipe. Et c'est juste comment tu fais en sorte de te poser deux secondes et de réfléchir à un ensemble de méthodologies qui vont te permettre d'atteindre cet objectif-là de la meilleure des manières, en faisant en sorte que aussi tout le monde se sente bien dans l'atteinte de cet objectif-là, et en étant efficace et rapide au passage, si on peut, quoi.
Ok, très clair, très clair. Il y avait pas mal d'éléments quand même.
Ouais, pas mal d'éléments.
Pour quelqu'un qui a pas réfléchi, c'est pas mal quand même.
J'ai réfléchi tous les jours indirectement, ouais, tu vois. J'ai pas la définition en tête, mais après mon boulot c'est d'organiser. Ouais. Hein, donc c'est un peu ça au jour le jour. D'autant plus que là au sein de la boîte j'avais un peu la casquette de CEO jusqu'à maintenant, donc c'est un peu tu touches à tout, mais en gros mon boulot c'est de structurer la boîte, les gens qui la composent, les indicateurs financiers, et puis en plus j'ai le boulot de directeur des opérations, donc c'est purement de la gestion de projet, quoi. Donc effectivement, ouais. Organisé, ouais, quand même pas mal.
Sur une échelle de 1 à 10, sachant que 1, vraiment, t'es dans les choux, c'est le chaos, c'est l'anarchie, et 10, vraiment, tout roule, vraiment, tout ce qui est planifié se réalise et tout ça, tu penses que tu te situes où, toi,
À titre perso ou par rapport à la boîte?
Bah, tu peux dire les deux, tiens.
La boîte, c'est assez hétérogène parce que typiquement, on a commencé beaucoup avec des techniques. Donc, l'équipe de dev qui bosse avec des sprints, des routines, ils sont très carrés, même si on essuie quand même des plâtres encore, mais ils sont plutôt très efficaces. Et puis, on a petit à petit structuré d'autres pôles. Donc, je dirais qu'on est vers un 6,5-7 et on y va bien petit à petit. Et moi, je me mettrais dans ces mêmes ordres de grandeur, quoi, parce qu'il y a beaucoup à apprendre aussi. Bon, je pense qu'on y reviendra, mais je pense être quelqu'un d'organisé. Mais je suis plus bon au labeur et résilient dans l'effort que efficace pour faire le moindre effort et aller très vite sur des tâches, quoi. Mais l'un et l'autre est pas forcément, l'un n'est pas mieux que l'autre non plus, je trouve. Il faut un entre deux.
Ouais, effectivement, bah, il faut de la persistance. Ouais. D'autant plus dans ta position. Et après, ce qui peut parfois être plus dur, effectivement, c'est de rechercher l'efficience, arriver à optimiser. Parce que, bah, surtout quand tu as beaucoup de choses à faire, comme toi, là, par exemple, tu me disais que tu étais un peu sous l'eau, là, juste avant, là, début du mois. Bah, en vrai, c'est un peu dur de dire, allez, là, je bloque du temps, vraiment, pour essayer de prendre du recul. Enfin, en vrai, dans les faits, c'est dur à faire.
C'est clair, c'est contre nature. Mais bon, tu as les petits leviers, en fait, qui te permettent de le faire, je trouve. C'est pas forcément te dire, OK, là, je bloque du temps. Enfin, moi, j'arrive pas à me dire, je bloque du temps, et puis là, je prends du recul. Ça m'arrive pas trop, mais par contre, je me dis, je bloque du temps pour aller rencontrer des gens, typiquement, qui ont fait la même activité que moi et qui, de fait, dans nos discussions, vont me forcer à prendre du recul parce qu'ils ont une posture qui est un peu différente. Et du coup, tu vas un petit peu, craquer ton cerveau pour dire, OK, je sais comment contourner ce problème-là et puis prendre un peu de recul parce que je suis déjà passé par là il y a quelques temps. Ce qu'on essaye de faire. On n'arrive pas tout le temps, mais on essaye de le faire.
Et tu dirais que ça a évolué comment, justement, ton organisation, par exemple, par rapport à quand tu étais gamin? Est-ce que tu étais déjà vachement, je sais pas, par exemple, très suivi à l'école ou dans tes passions vraiment très assidu, ou alors est-ce que tu étais, voilà, tu allais un petit peu partout, tout ça?
À l'école, toujours très scolaire. Toujours scolaire, même en prépa, tu vois, tu peux citer l'exemple de la prépa. Moi, j'ai toujours été partisan du plus je fais en termes de quantité, plus je me sentirais légitime à réussir et que ce soit. Et la prépa, ça m'a vraiment appris un truc, c'est que ça sert à rien de faire 10 exercices que tu comprends à moitié, et au mieux en faire un et essayer vraiment de comprendre le truc plutôt que vouloir faire de la quantité à tout prix. Et d'ailleurs, je me souviens, j'avais passé les concours ENS, et franchement, j'essayais vraiment de faire tous les exercices, et je remplissais des tartines et des tartines pour montrer que j'avais compris. Au final, j'ai pris 4, un truc comme ça en maths, le gars en face, il a bien compris que j'avais pas compris, tu vois. Du coup, là, je me suis dit, mais essaye de te focaliser sur un truc où t'es à forte valeur ajoutée, que tu comprends fort, et du coup aller pousser dans ce truc-là pour après développer cet aspect-là qui pour toi est important et que t'arrives à pousser plus loin. Et en l'occurrence, moi, sur ma vie perso, je suis bordélique au possible, vraiment bordélique. Mais je pense que c'est aussi le penchant du fait que là, je suis obligé d'être cadré sur tout le reste.
Et aussi au début de Unico, genre quand t'as eu l'idée. Finalement, comment est-ce que tu as trouvé le temps à te dégager justement pour ça? Parce que, bon, déjà, il y a eu l'idée qui est arrivée. Après, il faut matérialiser l'idée, sinon ça reste dans ta tête et voilà. Et en fait, comment ça s'est fait? Comment tu as introduit cette routine-là, travailler sur ce projet-là en parallèle de tes études? Tu étais aussi en déplacement au Gabon, je crois, un truc comme ça.
C'était au Cambodge.
Cambodge, pardon.
Ouais.
Comment t'as introduit ça dans ta routine et comment tu t'es organisé aussi avec tes deux associés du coup pour partager les tâches, tout ça?
Ouais, c'est marrant ça. Je dis toujours moi que nous on n'a jamais eu d'idée quoi trop. En fait, un jour on s'est dit on va faire un truc dans l'entrepreneuriat parce que ça nous même pas on s'est jamais dit qu'on allait être entrepreneur. On s'est dit on veut faire un truc qui a un peu de sens environnemental. Du coup, on a dit quel est le secteur aujourd'hui qui souffre un peu de ça. On a dit on va dans les déchets et on a commencé à mettre les pieds dans les services déchets. On a compris qu'il y avait un vrai besoin. Et à partir de ce besoin-là, on a germé, non pas une idée, mais une réponse à un besoin. Et du coup, comment concrètement, parce qu'il y avait des logiciels qui étaient déjà en place et ils avaient déjà des routines, ils n'ont pas attendu Unico pour pouvoir le faire. On dit, parce qu'on n'est pas, on est innovant, mais on n'est pas disruptif, comme ce que peut l'être vraiment des startups deep tech, etc. On a dit comment on peut faire mieux ou faciliter la vie de tout le monde via un besoin qu'on avait clairement identifié. Et en fait, on est parti de là, on est parti sur un truc qui avait rien, enfin, qui avait un petit peu à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais pas totalement. Et au début, c'était un projet...
Ouais, c'était Smart, c'est pas oui. autrement. Hein.
Smart Way, ça s'appelait. Ouais, très bonne idée, ça, quand tu parles à des collectivités perdues dans la campagne.
Yes, of course. Exactement. Do you speak English?
C'était une startup, Smart Way. Non, on a dû t'arrêter ça, en fait. Et mais typiquement, ça fait partie des erreurs que tu fais quand tu es entrepreneur et qui te permettent de progresser. Donc, en fait, tu vois, l'idée, typiquement, de faire d'avoir une identité assez terrain expert déchets, c'est pas une idée en fait, c'est juste qu'on avait l'idée d'être une start-up très sexy et tout, et on s'est rendu compte que c'était n'importe quoi, et donc tu prends un mur et puis après tu changes ta voile. Bon, ça c'est un sujet, mais du coup sur l'organisation, comme on a fait, moi je suis parti au Cambodge 6 mois, je suis parti à Stockholm et au Cambodge 6 mois à peu près après qu'on ait lancé ça en projet, c'était un projet vraiment d'école, et on s'est dit bah il y a peut-être un truc à faire, venez on pousse un petit peu plus, donc on s'est donné un peu une routine où toutes les semaines, tous les dimanches, on se faisait une réunion d'une heure où on se faisait compte rendu du jour, tout doit faire pour la semaine suivante.
Tu faisais même un PPT?
On faisait pas de PPTX à l'époque encore, mais non, ça servait pas à grand chose. Mais par contre, à ce moment-là, on a postulé à des premiers petits concours. On a remporté un premier prix. On avait gagné 1000 ou 2000 balles, mais on était trop contents parce que ça venait valider un peu une idée, bah pour le coup, une idée, tu vois, qui était, que tu avais défendu et qui plaisait, et du coup je pense que ça a participé derrière à ce qu'on maintienne ce truc là.
Ouais, parce que t'as bon, la somme qui est toujours cool à avoir, mais t'as aussi une sorte de, je pense, de validation un peu, ouais. Voilà, d'une institution de machin qui mine de rien commence petit à petit à légitimer, où tu te dis ah ouais en fait c'est valable, enfin
c'était très concret, très encourageant quoi. Maintenant à posteriori, je me rends compte que bon, les gens qu'on avait en face, ils y connaissaient rien aux déchets, et donc la légitimité, elle est absolument moins un. Mais cela dit, c'était un encouragement qui nous disait ok, vous êtes sur une voie, vous êtes pas bête, et potentiellement vous pouvez faire un truc qui est chouette. Et puis c'est à ce moment-là aussi, on a créé aussi une synergie entre nous trois, là, les trois cofondateurs, et une habitude de travail, et où on a commencé à créer un noyau qui nous tient toujours aujourd'hui et qui permet de faire avancer la boîte, je crois. Voilà, c'était presque plus pour ça que c'était intéressant à cette époque. Et puis après, je suis parti pendant 4 mois dans la forêt amazonienne. Du coup, plus de nouvelles de personne pendant 4 mois. Et je me souviens, j'étais sur le bateau pour rentrer dans la ville parce qu'il y avait que des bateaux pour se déplacer là-bas. Et j'écrivais les messages en ligne, quoi, pour envoyer des pavés une fois que je récupérais un peu de réseau. Et après, je repartais. Bon, bref, pas idéal, quoi.
C'était le full asynchrone, là, pour le
très coup. Asynchrone, ouais, très asynchrone. Pas très agile comme développement de boîte. Mais bon, c'est bien aussi, il faut faire sa expérience.
Ouais, non, carrément. Et qu'est-ce que tu dirais, enfin, sur le fait de travailler avec des amis avant tout, mais même sur le fait de travailler en fait avec d'autres personnes sur un projet entrepreneurial comme celui-ci, c'est quoi, selon toi, un peu les principaux avantages et désavantages par rapport au fait d'être seul, par exemple, et qu'est-ce que tu pourrais donner comme petit conseil sur la manière de s'y prendre, surtout au début? Ouais. Pour que ça se passe bien sur le court, moyen et long terme.
J'ai pas trouvé l'expérience d'être tout seul du coup, mais je sais qu'au début je m'étais dit même si ils me suivent pas les deux autres, j'irai tout seul. Et a posteriori j'aurais pas pu, genre j'aurais vraiment pas pu parce que je trouve que entreprendre à plusieurs, en tout cas dans mon cas, ça m'a permis vraiment de créer un peu une synergie où quand j'ai une bonne nouvelle, je la partage et c'est décuplé, et quand j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai des gens pour soutenir et me tirer vers le haut. Je sais que Colin, il n'est pas touché par les mêmes choses que moi, par exemple. Et du coup, il y a des fois où ça lui passe complètement au-dessus, alors que moi, je suis au fond du seau, c'est pas très grave. À l'inverse, on se tire chacun vers le haut. Jules, c'est un peu l'inverse. Il est plutôt optimiste sur beaucoup de choses. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça génial, d'autant plus quand c'est des potes à toi, en sachant que c'est des potes. Mais du coup, après un certain moment de relation professionnelle où tu te vois tous les jours, même plus que la journée quand tu dois faire des déplacements et tout, t'as un peu tu fais évoluer ta relation vers un truc qui est semi-professionnel, semi-pote. Et puis moi, j'espère bien qu'un jour, quand on arrêtera cette aventure-là, je les retrouverai en tant que pote à 100%, quoi. Voilà, sûrement. Et du coup, en termes d'organisation, et après, par contre, la contrepartie d'être à plusieurs, c'est qu'effectivement, t'as moins de liberté d'action et que potentiellement, t'as aussi des compromis à faire, comme dans un couple un peu, comme dans un couple, mais carrément, en termes de communication.
Ah oui, pour le coup. C'est un peu votre bébé, on va dire.
C'est ça, ouais. Et puis la communication, c'est pas toujours simple, hein. Il faut pouvoir travailler avec les sensibilités de chacun. Mais bon, c'est aussi bien, c'est formateur. Et pour s'organiser, nous, on avait fait un truc au tout début qui était, c'était un petit atelier à trois, genre au début, peut-être un an après s'être lancé, mais c'était vraiment le début du Nico. C'était arriver à identifier, je crois que c'était un thème autour du feu, de l'eau, de la terre et de... c'est quoi le troisième? Air, terre. Non, c'est bon, j'ai dit les quatre, pardon, non, ils sont tous, ouais. Et en gros, l'idée, c'était de dire, j'identifie quelles sont les racines du Nico, et est-ce qu'elles sont communes à nous trois, qu'est-ce qui nous meut en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, pour qu'elles soient clairement identifiées, quels sont les rôles de chacun qu'on veut avoir ou qu'on espère avoir un jour dans cette organisation, et comment on communique ensemble. Et du coup, ça te permettait juste de dire, voilà, voici les bases de notre collaboration, et on est tous drivés par le même objectif, qui derrière va nous apprendre plein de choses, va nous faire évoluer, etc. Mais je pense qu'on reprend ce qu'on avait fait à l'époque, on est toujours aligné sur ce schéma, quoi.
Donc c'est vraiment accorder les visions, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Les visions et t'as aussi t'as effectivement le but, la vision, et qu'est-ce que tu mets en œuvre pour arriver à cette vision-là. Ouais. Ça peut être
pourquoi
un compromis.
Et le comment.
Ouais, le comment, exactement. Moi, je suis prêt à sacrifier le fait d'avoir un salaire ou de pas être payé pendant 2 ans. Est-ce qu'on est tous OK avec ça? Oui, non. Sinon, comment on fait? Est-ce que t'es OK pour faire des réunions toutes les semaines pendant 1 an pour voir un peu où ça peut nous mener? Voilà, tout un tas de choses qui sont des trucs très pratico-pratiques, mais sur lesquels t'as besoin de mettre des mots pour pouvoir derrière avancer sur un nom, je trouve.
Non, je suis d'accord. Puis même en termes de tempérament, y en a qui sont peut-être des bourreaux de travail et voilà, travailler non-stop pendant 10 heures, pas de problème, machin. Il y en a qui, au contraire, ils vont avoir, on va dire, besoin d'avoir un plus gros équilibre, quoi. C'est-à-dire d'avoir tout le temps, pouvoir aller faire leur sport le soir et machin, sans forcément avoir géré des pics de charge incroyables. Donc ouais, ça dépend. Ouais. Et comment ça se passe un petit peu au niveau décisionnel, dans le sens où, par exemple, là, t'es CEO?
Ouais.
Comment ça s'est un peu comment quand, en partant à trois, vous êtes plutôt orienté sur ça? C'était une question de
c'est un peu particulier. Je pense que c'est propre à chacun, ça, pour le coup. Il n'y a pas trop de schéma, mais en gros, au début, ce qui est marrant, c'est que moi j'étais CEO. J'étais CEO un peu naturellement parce que en termes de représentation externe, de position institutionnelle, genre politiquement. Tu vois, politiquement sociable, tu vois, le truc où tu passes un peu bien et tu fais, par exemple, tu vois, ça te fait de faire des podcasts et machin comme ça. Moi, j'aime bien. Les autres, ils sont pas forcément hyper familiers avec ça. Et du coup, c'est un peu la post-représentation qui allait plutôt bien. Après, j'ai pas de pouvoir en plus en termes de gouvernance par rapport à eux. Genre, mais pas du tout. On est à équité, même sur le capital, enfin sur la cap table, mais même en termes de décision interne. Jules, à la base, c'était notre CTO, donc il est directeur technique. Maintenant, il est directeur commercial. Il n'a rien à voir avec la technique. Donc, c'est bien que ça a évolué aussi par rapport à l'expérience. Et Colin nous a rejoint aussi un petit peu plus tard dans l'entreprise parce qu'il avait, au début, on a commencé à deux et puis ensuite, il s'est greffé à temps plein, en tout cas. Et il a fallu trouver aussi sa place dans l'équilibre pour comprendre les postes de chacun. Donc, ça s'est fait naturellement, mais il a fallu l'identifier au fur et à mesure, en fait. Et du coup, ça a bougé, quoi, au sein de la boîte, et ça bouge encore et ça bougera.
C'est vraiment selon affinité. Ouais, toi, t'étais plus à l'aise, en fait, sur l'aspect, entre guillemets, personal branding, quoi. D'incarner le visage un peu de Nico, et du coup,
Ouais, c'est ça. Et puis, représentation externe, ça allait plutôt bien. Ça allait plutôt bien, mais bon, tu vois, ça veut pas dire, aujourd'hui, ça veut pas dire grand chose. Si je regarde sur mon poste, factuellement, je suis beaucoup plus directeur des opérations, RH et finance que, poste de représentation externe. D'ailleurs, je le fais plus trop. Tu le fais en vrai quand tu as besoin d'aller chercher des financements ou que tu as besoin de visibilité externe pour une raison X ou Y.
Et tu me disais aussi la dernière fois, moi ça m'avait fait un peu rire, que avec les meufs, tu disais pas que tu étais CEO parce que sinon ça faisait genre tu te la pétais un peu et tout.
Moi je t'ai dit ça, qu'avec les meufs je disais pas ça. Moi je dis rien avec les meufs. Mais non, je dis pas CEO parce que ça fait un peu. Ça dépend qui tu parles, mais ça fait un peu connard quand même de dire ouais, je suis CEO d'une start-up.
Bah en fait, disons que la personne est un peu jugée, vraiment de te mettre dans le cliché de base du Jean-Michel startupper qui a fait l'essai, machin.
Et... C'est un peu ça le piège. Non, c'est plutôt moi quand je me présente, pareil, je dis pas trop que j'ai une startup. Mais ça, c'est aussi peut-être le syndrome de l'imposteur parce que moi, je viens pas d'un milieu entrepreneurial ou startup ou comme ça de campagne de Toulouse. Du coup, c'est pas que tu vois pas des startups tous les jours, quoi. Mais après, t'as la liberté de le dire aussi quand t'es avec cet écosystème-là. Et puis à l'inverse, moi j'aime bien dire que j'ai une entreprise dans les déchets, tu vois. Après, c'est peut-être de la fausse humilité, mais
non, c'est vrai. Au final, une startup, c'est une entreprise qui débute. Mais bon, toutes les grandes entreprises, des grands groupes ont débuté quelque part. Hein.
Exactement.
C'était startup à la base.
Hein. Ouais, bien sûr.
Et donc après, bon, voilà, vous étiez trois personnes à base. Après, vous avez commencé à avoir des besoins pour vous épandre. Donc, vous avez commencé à dire, voilà, faudrait qu'on demande les services de d'autres personnes, développeurs, commerciaux, etc. Mmh. Et du coup, on en a parlé un petit peu avant, mais comment ça s'est passé, ce fait donc de devoir embaucher, donc bien sûr, à une nouvelle personne et de devoir déléguer potentiellement certaines certaines tâches.
Ouais.
Comment tu fais actuellement, voilà, si tu te rends compte, ah ben là, voilà, il y a besoin, je sais pas, de vraiment pénétrer un marché spécifique, tout ça, on veut un commercial. Comment ça va se passer? Et comment sur toi, sur les tâches que tu avais peut-être avant, parce que t'es passé, j'imagine un peu de touche à tout, à un peu plus, même si, bon voilà, je touche encore à tout, mais on va dire, tu passes peut-être plus de temps sur les trucs plus spécifiques, sur voilà, je t'en ai des ressources, des personnes, etc.
C'est vrai.
Comment ces deux choses-là sont un peu orchestrées?
Pas mal de choses. Notamment au début, je pense qu'on a passé quand même... La boîte, elle a 2 ans et demi, là. Ça fait 2 ans et demi qu'on l'a créée. Je pense qu'on a quand même passé 1 an et demi, voire presque 2 ans, où on n'a pas eu à déléguer, nous, en tant que fondateur. Dans le sens où les activités sur lesquelles on recrutait des postes, c'est les activités sur lesquelles nous n'arrivait pas à couvrir le besoin. C'était des techs qui étaient meilleurs que nous, des développeurs qui étaient, parce que je suis pas développeur, donc c'était pas très dur en même temps, des développeurs, ouais, principalement des techs, et puis des gens qui étaient sur de la com, et très tard, en fait, très tard, mais ça fait un peu moins d'un an, il y a 10 mois, on a recruté nos premiers gens sur les opérations, sur le service client, sur les commerciaux, des choses comme ça, qui sont des postes que nous on gérait de A à Z en interne, moi, Jules et un petit peu mon associé aussi, Colin. Mais en fait, ça arrivait vraiment au moment où on avait besoin de scaler, donc de changer d'échelle, quoi. Jusqu'avant, on était plutôt sur la preuve de concept, sur le fait de valider le marché, sur le fait de connaître ses forces, ses faiblesses, de structurer ta boîte. Et à partir du moment où tu as besoin de scaler, c'est là où tu dois pouvoir trouver des gens qui font ce que tu sais faire et au passage, si c'est possible, de le faire mieux que ce que toi, tu aurais pu le faire. Et c'est là où tu as un gros enjeu à arriver à déléguer. Et c'est vrai qu'on en parlait moi j'ai beaucoup de difficultés à le faire parce que tu as des contrats des fois qui sont des contrats clés sur lesquels tu sais que tu maîtrises à peu près tous les aspects de l'équation et tu vas presque passer plus de temps à expliquer, former, filer les clés à une personne tierce pour gérer le projet qui fera peut-être pas aussi bien que ce que toi t'aurais pu faire dans un premier temps en tout cas que le faire toi-même. Mais ça, c'est pas une bonne logique quand tu veux derrière prétendre à avoir un truc plus gros et te détacher un peu de ces aspects trop opérationnels. Et du coup, c'est très récemment là que on s'est dit, que je me suis dit d'ailleurs particulièrement, c'est peut-être pas partagé par tout le monde, sur mes, je passe peut-être la moitié de mon temps sur des opérations par exemple aujourd'hui, mais sur la moitié, enfin sur cet ensemble de temps où je gère des projets, je fais des opérations, je gère des clients, il faut que je passe la majorité de mon temps à faire du management et de la formation auprès de mes équipes pour que là, effectivement, ça va être un petit enjeu de... ça va pas m'être profitable de suite, mais derrière, ça va pouvoir me permettre de décupler ma force active parce que j'aurai d'une part formé des gens, je les aurai fait monter en compétences, ils seront contents d'avoir des projets trop bien aussi à gérer, ils seront satisfaits aussi du management parce qu'il y a aussi une notion humaine qui est importante. Et au passage, moi, derrière, ça me fera gagner du temps. Mais bon, dans l'immédiat, c'est hyper dur à faire, hein, parce que c'est de l'énergie à fond.
Ouais, on en parlait de ça. Et moi, quand j'étais en startup, c'est vrai que finalement, le côté délégation, il était facilité, avec de nouvelles personnes qui intègrent l'équipe, du fait que vraiment, il y avait une très très forte documentation. Quand je dis documentation, c'est pas juste de l'écrit. Hein. Maintenant, le format vidéo, il est de plus en plus facile à produire quand même en travaillant moi actuellement je suis chez EDF et je m'enregistre avec Teams et ça marche très bien et c'est vrai que ça moi je trouve que ça permet vraiment d'avoir de donner tous les outils en fait aux personnes et en fait une fois que t'as donné tous les outils tout ce que t'as à faire c'est plus qu'à expliquer comment servir des outils tu vois c'est je te donne une pioche t'explique comment te servir de la pioche pour creuser le trou versus j'ai rien à te filer, t'es avec tes mains. Je dois t'expliquer comment créer la pioche pour ensuite creuser.
Est-ce que tu penses que tu peux filer tous les outils à travers de la vidéo comme ça, ou des fois t'as aussi la nécessité de un peu le foutre quelqu'un dans le grand bain, quand même il a pas forcément tous les outils à la disposition pour essayer de d'apprendre de lui-même. Tu vois, moi je le pense par rapport aux formations clients quand tu vas faire former des chauffeurs. Je peux faire toute la théorie du monde, c'est le jour où ils vont se retrouver avec 3 chauffeurs en face et qu'il va falloir qu'ils se débrouillent, qu'ils vont s'en sortir. Du coup, ouais. Mais t'as un enjeu de formation, je te rejoins là-dessus quand même. De le mettre dans les bonnes conditions pour derrière pouvoir t'épanouir et montrer ce que tu veux le jour où tu es confronté.
Je pense une question d'équilibre. Alors après, bon, t'as des tempéraments déjà. C'est-à-dire que t'as des gens qui sont très procéduriers ou qui vraiment, si tu leur dis pas ce qu'il faut faire exactement ou qu'ils n'ont pas une notice, ils s'en sortent pas. Tu vois. Et il y en a qui, au contraire, ça les saoule de fou de suivre un processus. Tu vois. Donc peut-être faut pas gérer ces gens-là de la même manière. Quelqu'un, moi par exemple, c'est vrai que le process, ça me dérange pas du tout, je suis assez autonome. Moi, par exemple, le fait d'avoir de la documentation et tout, ça m'allait super bien. Par contre, imaginons que je sois donc l'opposé, c'est-à-dire, voilà, le procès, je m'en fous un peu et tout ça, et j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis, mais peut-être ça aurait été mieux qu'une personne soit là, elle m'accompagne, elle me montre comment, et je fasse vraiment, par mimétisme en la voyant, enfin voilà, j'aurais plus bénéficié du coup de ce contact-là. Après, le seul problème de ça, c'est que du coup, c'est pas scalable. Ouais. C'est-à-dire que, à moins que tu te filmes, pendant que tu avais la personne en train de l'expliquer, tu vois, bah, si jamais il y a une autre personne, bah, tu dois refaire le même speech. C'est alors, clair. Peut-être tu seras amélioré quand même entre temps, tu auras fait un meilleur speech, mais dans l'idée, tu vois, tu dois en refaire. Et du coup, bah, moi, je trouve que c'est, enfin, moi, j'aime beaucoup l'aspect tech dans l'organisation justement pour ça. Ouais. Tu fais l'effort une fois et après, c'est bon, c'est fait. Et peu importe finalement combien de personnes, tu vois, ça peut aider, ça change pas du tout l'effort que tu as mis à la base. Et après, ouais, je pense que c'est une question d'équipe parce que je suis d'accord, surtout au début, en fait, bah voilà, t'es dans le grand bain, enfin, t'es obligé. Mais je trouve que petit à petit, intégrer des process, en fait, process, c'est aussi, enfin, par exemple, une liste de courses, c'est un process, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Une liste de courses, tu l'as fait, je veux dire, t'es pas parce que tu fais une quiche, tu vois, si je te demande là, la quiche, bon voilà, tu sais un peu les trucs, mais en fait, selon le contexte, parfois, bah, tu vois, tu penses à autre chose, je sais pas, ah tiens, je veux développer un nouveau projet et tout. Mmh. Et en fait, tu vois, tu as oublié les lardons. Mais pas parce que t'es bête, juste parce que, tu vois, un contexte, machin. Et donc, en fait, rien que le fait d'avoir cette checklist-là, ça te décharge mentalement de ça.
Ouais,
tu vois.
Clair.
Même si, si tu te concentres à 100% sur la tâche, je suis d'accord, oui, voilà, tu la gères, t'as eu des cours dans la tête. Mais en fait, ça, plus le fait qu'il faut rappeler machin, plus le fait qu'il faut truc, bah, tu vois, au bout d'un moment, t'oublies, quoi. Donc, je pense que c'est juste mieux. Il faut à la fois, je pense, laisser des initiatives personnelles, la possibilité d'améliorer un process. En fait, être ouvert à modifier, adapter le process. Faire primer, voilà, ça, cet aspect relationnel, machin, sur les process. Mais, je pense qu'il faut quand même des process, sinon c'est vraiment le zbeul, quoi. Potentiellement.
Ouais.
Voilà, je dirais ça. Un truc un peu suisse.
Ouais, non, mais t'as tout à fait raison. Mais je pense qu'il y a deux points d'attention quand même sur le fait de la mise en place de process. On a essayé beaucoup de le faire, mais en se basant beaucoup sur un aspect théorique. Typiquement, quand on a commencé à structurer le pôle opération ou le pôle business, on s'est dit quel serait le fonctionnement idéal selon nous. Du coup, on a mis plein de process. Tu vois, je fais une liste. J'ai process pôle ops. J'en ai peut-être 20 qui étaient listés. Et quand je me suis retrouvé confronté, je me suis rendu compte que en fait, ça marchait pas parce que les personnes, c'était pas forcément peut-être celles qui fitaient avec ces process-là. Une fois que j'ai été confronté au terrain, c'était pas forcément non plus les process qui étaient les plus adaptés. Et du coup, a posteriori, on a dû en modifier une grosse partie et surtout on supprimait beaucoup qui étaient inutiles. Et du coup, je crois beaucoup à la mise en place de process ou d'une méthodologie par le besoin, au même titre que ce que je te disais tout à l'heure sur la création d'une boîte, qui émerge pas ou peu, selon moi, d'une idée, mais qui provient beaucoup plus de l'expérience que tu vas en faire sur le terrain et d'arriver à solutionner un problème que tu vas identifier via effectivement des solutions tech, etc., etc. Et puis ça va à l'inverse de ce que il y avait un investisseur qui nous a parlé très longtemps, qui lui était très partisan du process par l'outil. Et du coup, c'est l'outil qui va dicter derrière ton process. Tu prends un Trello, tu te cales un peu dans le moule du Trello. Mais je pense que pour mettre ça en place, il faut quand même avoir identifié le pourquoi. C'est quoi ton but, tu vois, à la base. Et si ça c'est pas clair, ou autant pas partir dans un truc trop complexe, tu mets un process et après t'itères sur la complexité de ce que tu peux mettre derrière. Mais ouais, mais c'est ce qui te permet après de passer un cap, hein, de toute façon. Hein. C'est à quel point ça rejoint. Process, c'est un petit peu le mot à la mode, mais c'est de l'organisation, quoi. Hein, l'organisation, de la structuration et de savoir comment tu franchis les étapes.
Ouais, carrément. Et derrière, c'est vrai que c'est les process aussi qui te servent à faire une démarche un peu qualité, quoi.
Ouais.
Parce que si tout le monde fait différemment, bah, identifier les bonnes pratiques, identifier les points faibles et tout, ça devient ouais, c'est un peu plus difficile. Mais bon, c'est vrai que c'est une question un peu large, comme tu dis, ça dépend pas mal de facteurs, de la taille, des gens, etc. Ouais. Donc,
mais ça rassure.
C'était flexible.
Moi, je le vois, ça rassure l'équipe. On a mis en place des choses, on a discuté ensemble, et vraiment, ils sont rassurés parce qu'ils savent globalement ce qu'ils doivent faire. Ils sont à peu près carrés sur leur but parce qu'on a mis en place des choses en termes de process, en termes de documentation. Tu vois, tu parlais de Notion tout à l'heure. Mais, t'as un Notion qui est documenté, qui est clair, tu sais où tu vas, et ça, c'est hyper rassurant. Mais à l'inverse, dernière réunion qu'on fait, je fais, bon, là, on fait un petit point, on regarde les process, on a pris des 20, je dis, ça sert à quoi? Bon, ça sert à faire ça. Ça sert à quoi? Bah, je sais pas. Bon, bah, alors, ça dégage. Alors, on a dégagé, peut-être la moitié. Et du coup, on a vraiment des trucs cœur qui sont utiles et qui nous permettent d'avancer sereinement.
Ouais, non, mais t'as raison. C'est vrai que, bah, je le vois aussi, pour le coup, bah, un peu chez EDF, dans ma entreprise. C'est-à-dire, parfois, ouais, t'as un peu des process pour des process, quoi.
T'as soufflé fort, là, quand même.
Non, mais après, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Enfin, je veux dire, quand t'as des tailles qui sont aussi grandes que, tu vois, des entreprises comme ça, tu vois, c'est un peu difficile, je trouve, de pas tomber dans ce travers. Tout comme quand t'es plus petit, entre guillemets,
ouais,
ben, c'est peut-être plus facile de tomber dans le travers de, non, mais je fais pas, de toute façon, moi, je sais le faire, machin, et tout, tu vois.
C'est
donc, ouais, pour moi, bon, c'est effectivement, le danger, c'est d'avoir un peu une sorte de Frankenstein, quoi. Et au final, t'as 10 000 trucs, 10 000 ouais, process, et en fait, personne veut y mettre le nez parce que c'est pas sexy, quoi. Et t'en as pour rien que parfois déjà retrouver l'information, c'est déjà tout un challenge, quoi.
Ouais,
alors si en plus l'information, elle est écrite avec le derrière, alors là,
ouais, vite, on s'en part, ouais.
C'est terminé, quoi. C'est terminé. Et justement, tu parlais de Trello. Donc Trello, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros l'utilisation de la méthode d'organisation de Kanban, donc c'est comme vous avez, je sais pas, to do, enfin à faire, en cours et terminé, par exemple pour Kanban basique. Après, vous pouvez rajouter plein de choses et l'adapter à des process, je sais pas, la cuisine par exemple, acheter un ingrédient, couper légumes, enfin voilà. Du coup, justement, en interne, comment est-ce que vous gérez vos projets, c'est-à-dire votre roadmap, ce que vous avez développé en outils, vos routines? Voilà, t'as parlé un petit peu d'agile.
Ouais.
Donc le fait de fonctionner un peu sous forme de cycle itératif, notamment, c'est vrai que c'est très présent dans les sphères de développeurs, etc. Voilà, est-ce que c'est quelque chose où vous prenez, même pour les autres pôles, on va dire, des petits bouts de ça pour le faire à votre tambouille, comment ça se fait?
Ouais, carrément. On a commencé au tout début par les techs, c'est les premiers qui ont structuré la boîte, c'est ceux qui sont plus structurés aujourd'hui. Eux, ils utilisent Jira, qui est un système de ticketing mais dédié aux devs, qui est relié à leur GitLab, qui est relié à du Slack aussi pour nous envoyer de l'information derrière, pour que même si t'es pas développeur, tu sais un petit peu ce sur quoi les gens y bossent. Je fais le malin, mais il l'a fait genre il y a une semaine, et le tech lead, ce truc-là, cette connexion Slack, mais c'est quand même assez pratique.
Ouais, c'est là que c'est de la messagerie instantané et interne, c'est comme une espèce de messenger, mais beaucoup plus pratique, quoi, pour collaborer.
Ouais, carrément. À la base, et sur tous les autres pôles, nous, on est beaucoup structuré en interne sur des solutions type Airtable, Jobform, qui sont assez puissants parce qu'ils sont intégrés. Et du coup, dans les premières étapes de la boîte, par exemple, ça nous a permis de faire beaucoup de choses, d'aller vendre même des solutions à des clients, en nous aidant à nous structurer au passage en interne, tout ce qui est documentation RH, demande de congé, machin et tout, on passe tout par Airtable parce qu'on a tout fait en interne là-dessus. Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt très bien. On voit pas trop l'utilité de passer sur autre chose. En tout cas, c'est stable. Maintenant, sur toute la dimension produit, on est encore en train de se chercher là-dessus. On est principalement sur du Trello, sur tout ce qui est la remontée d'éléments de terrain et business pour intégrer dans la roadmap produit derrière. Et globalement, je trouve que le fait d'avoir un outil ne permet pas d'enlever toute la dimension réflexion autour de la roadmap qui est très, pour le coup, on a des points hebdomadaires d'une heure avec mon associé qui est directeur produit pour discuter de ces sujets-là et l'afficher. Je sais pas si t'as vu quand t'es en train de le mur, il y a une grande roadmap qui est collée au mur pour que quand tu rentres dans les bureaux, tu vois la roadmap et tu sais où elle est claire, enfin où on en est. C'est un peu l'élément cœur de notre boîte parce que c'est la dimension produit, on est une boîte produit. Donc ça, on est encore en train de se chercher, mais on essaye de mettre des choses en place là-dessus. Et après, toute la partie commerciale, ils sont sur HubSpot, qui est un CRM aussi hyper adapté sur toute la... Enfin, qui gère pas la partie marketing aujourd'hui, mais vraiment la partie génération de leads, qualification des leads, jusqu'au closing client. Et après, tout ça, c'est redéversé en du Airtable, slash Drive, et après Notion.
Table, c'est de la pour gérer les données, c'est vrai que j'ai pas précisé, ouais. Mais voilà, en ouais. Gros, c'est un espèce d'Excel boosté, quoi.
Ouais, Excel boosté plus, qui a des intégrations qui sont très très chouettes. La fonctionnalité formulaire qui est géniale aussi.
Pour être franc, j'ai jamais utilisé.
C'est vrai.
Ouais, j'ai jamais utilisé Airtable parce que ouais, en fait, dans laquelle j'ai été, c'était pas utilisé. Ouais.
Ouais. Bon, il faut que tu trouves une valeur ajoutée, mais quand même, c'est assez chouette. T'as son équivalent donc, qui s'appelle Jotform, qui est un peu un équivalent Airtable, mais plus orienté sur la partie génération de formulaires dans lequel tu peux mettre des QR codes, beaucoup de systèmes d'automatisation via des renvois d'SMS, de mails et tout. Et ça, c'est quand même pratique parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de solutions dans la vie que tu peux gérer avec juste une automatisation SMS, mail ou un petit formulaire. Hein. Bon, donc plus quand tu fais du soft. Et après, nous, on a mis en été dernier Notion pour faire toute l'encyclopédie un peu de la boîte et toute la dimension.
Bah, la documentation. On parlait.
S'en rendre compte que c'était quand même nécessaire arriver à un certain moment. Et bien après, t'as aussi du Mailchimp pour faire de l'envoi de newsletter interne, client, ouais. Fonctionnalité.
Ouais. Des trucs plus effectivement spécifiques.
Exactement.
Mais oui, je vois très bien, je vois très bien. Cette manière de s'organiser. Alors, j'ai vu aussi même là sur le mur la matrice d'Eisenhower. Vous avez un petit peu reproduite. Comment tu t'inculques un peu l'utilisation par exemple Trello. Comment t'inculques un peu l'utilisation de cet outil-là? La manière de s'organiser, alors matin, comment à travers votre culture est-ce que vous transmettez cette méthode d'organisation que vous avez au sein du Nico?
Je pense qu'on n'est pas les meilleurs pour ça encore, parce qu'on la documente pas de façon incroyable. Aujourd'hui, tu vois, les process sont documentés sur Notion, mais c'est pas hyper clair, hyper précis. Je sais qu'il y a des gens qui sont très très pointus sur ça et je pense que ça doit mieux marcher. Nous, on fait beaucoup de co-construction des process avec les personnes qui nous entourent. Donc, nos collaborateurs, quoi. Ils font leur retour, leur feedback, et à la fois, ils nous aident à les mettre en place. Et des fois, ils y participent de A à Z. Hein. Et ça leur permet de s'impliquer dans la définition du process et derrière de se l'approprier aussi. Maintenant, il y a plein de fois où on est assez humble par rapport à ça. Quand ça sert plus à rien, on le vire, quoi, et ça sert plus à rien.
Ouais, comme tu
et dis. Tu le remplaces par autre chose, quoi. Mais aussi, il y a un peu un truc qui est clé, je trouve, dans la mise en place de nouvelles méthodologies. C'est d'une part de la documenter, d'autre part de pousser des systèmes de notification de temps à autre. Tu vois, sur le Trello, on a tout automatisé pour que dès que tu as une modif Trello, ça booste dans le Slack, qui est le canal que tu viens voir régulièrement, tu vois. Et du coup, ça t'oblige à aller y refaire un tour. Donc, il faut qu'il devienne indispensable pour que derrière, tu puisses l'utiliser. Et après, t'as quand même un troisième truc qui est, il faut l'étaner pour avancer, quoi. Des fois, il faut se l'approprier, l'outil. Et si tu passes pas du temps à t'approprier le process, t'es jamais habitué. Nous, on le voit, quand on vend du soft, les clients, on leur vendra jamais du soft. Nos clients à nous, d'autant plus dans les collectivités territoriales et tout, tu vendras jamais du soft à des gens très, très terrain, qui ont une habitude de terrain, de leurs habitudes à eux, sans les accompagner. Et du coup, on a énormément de gestion projet. Alors, dans nos devis, on a des gestion projet, formation, accompagnement, ouais,
conduite,
paramétrage.
Conduite du changement.
Conduite du changement, ouais, un truc de fou. Hein. Et vraiment, c'est, tu passes du temps à montrer comment tu peux fonctionner, montrer l'intérêt, pourquoi, comment. Et une fois que tu l'as mis en place, après, ça roule, parce que t'as un intérêt. Mais tu peux pas arriver avec ton logiciel, t'as un onboarding parfait, machin, landing page, truc, ça marche pas. On y a cru, hein, mais non. C'est pas trop l'idée. Surtout sur notre secteur.
Ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, c'est vrai que, j'imagine, la moyenne d'âge chez Nico, c'est pas 50 ans en moyenne, quoi.
25, ouais.
Voilà. Et c'est vrai que, je vois, même moi, hein, dans ma boîte, j'avais un collègue, il faisait, donc je fais la gestion de planning, et lui, il faisait les plannings, il a connu les plannings à l'écrit, quoi.
Ouais. Ouais.
Sur des plans et tout ça.
Donc,
c'est sûr, bon, il a monté en compétences, mais par exemple, il a Véroné, et puis là-bas, ouais. Il est perçu comme le geek de service.
C'est ça, ouais.
Alors que clairement, c'est pas le cas, mais.
Ouais.
C'est vrai que, ouais, il y a une grosse différence par rapport à ça, quoi. Aussi, ouais, petite question. Alors, ça, c'est vrai que je pense que c'est particulièrement le cas quand t'es dans un projet entrepreneurial où il y a plein de choses à gérer. Comment t'arrives un peu à faire, alors peut-être avec la matrice d'Eisenhower, mais faire un peu la part des choses entre les problèmes ou ce qui requiert ton attention vraiment sur le court terme et le fait de passer du temps sur les choses qui sont vraiment plus structurantes comme ce que tu disais sur l'aspect managérial, revoir les process, etc. Comment tu essaies d'équilibrer ça? Est-ce que voilà, c'est via les routines, comme tu disais un peu, voilà, 1 heure tous les mois, etc. Est-ce que parfois c'est plus un peu selon l'envie, tu dis, allez, là, j'avais un pic de charge avant, donc là, c'est plus
Ouais.
calme, vas-y, là, j'y vais.
C'est il y a la notion d'importance, je trouve, de criticité qui est liée au fait est-ce que vraiment ta tâche de fond elle est structurelle pour ta boîte, tu vois, un enjeu de management, de RH. Dès que tu sens que tu as des tensions en interne, tu peux faire sans, en vrai, tu peux ne pas travailler là-dessus, mais tu sens que c'est un truc qui est crucial pour ta boîte. Du coup, c'est déjà arriver à prendre du recul sur qu'est-ce qui est important, et c'est mon rôle d'arriver à comprendre ce qui est important pour le mettre en œuvre, quand bien même c'est pas le truc le plus urgent où tu pourrais t'en passer dans la semaine. Maintenant, t'as quand même des urgences à gérer, donc première solution quand même, c'est de déléguer tout ce que tu peux faire. Enfin, tout ce que tu peux, tu délègues.
Ça, il y a le pense-bête.
Ouais, c'est ça, on essaie de déléguer au maximum et d'avoir une dimension collaborative qui est, moi je trouve, assez chouette. En plus, dans une boîte, ça participe à ce que tout le monde se sente bien. Et après, moi, je me prends des temps un peu dédiés où je sais qu'il y a des moments où j'ai des tâches un peu, enfin je le fais pas très bien d'ailleurs, mais j'essaye de le faire, des créneaux de 2 heures où il y a 2 heures je me fais une tâche de fond, et du coup
Focus.
j'aime pas me caler des rendez-vous, parce que ça c'est aussi le piège, c'est tu peux être sursollicité de rendez-vous. Et moi je l'ai vu, on est quand même souvent présent dans les bureaux, et on a la tentation souvent de faire des points client, point process, point réunion. Enfin, j'ai dit les points, c'est terminé. Enfin, dans mon pôle, en tout cas, on peut plus utiliser le mot point pour prendre un rendez-vous. Si t'as un rendez-vous, c'est que t'as vraiment un truc précis à faire, et que c'est pas une tâche que tu peux substituer. Enfin, elle peut pas se substituer à juste une documentation sur Notion ou un envoi de mail ou quoi. Et en fait, c'est souvent le cas. Tu peux faire sauter des rendez-vous ou des points, en tout cas, qui n'ont pas trop lieu d'être, surtout en interne. Et du coup, c'est éviter de te surcharger de points toute la journée, où tu ressors de là, t'as rien fait, et puis t'as beaucoup discuté et pas beaucoup produit, quoi. Et t'as des stades dans la boîte où t'as beaucoup besoin de discuter, pas énormément de produire, et à l'inverse, là, on est un peu dans la phase où on sait à peu près où on veut aller, et maintenant, faut dérouler, quoi. Faut exécuter.
Ouais, et il y a justement, alors, c'est la start-up qui s'appelle Alan, c'est assurance santé et
Ouais.
tout. Et ouais, il me semble que c'est eux. Notamment, ils ont interdit la réunion.
Ah ouais, c'est vrai?
Ouais. Pas de réunion. Pas de réunion.
C'est un
Zéro.
peu, c'est un peu, c'est un peu extrême, mais pourquoi pas, ouais.
Ah, pas le jeu, mais c'est vrai que,
Tu vois
bah, en tout cas,
l'équipe.
s'ils le font, enfin, c'est pas les seuls, parce que ça se fait par
Ouais.
des grosses boîtes, tu vois, c'était Amazon et tout. Effectivement, c'est qu'il y a un bénéfice. Après, encore une fois, tu vois, pour moi, ça va vraiment dépendre parce que des gens qui ont un profil empathique, tu vois, peut-être que effectivement, la réunion, c'est pas le mode pour, je sais pas, transmettre l'information, la conserver, tout ça, qui est le plus optimal. Mais en fait, ben, comment se sentent les gens, tu vois, à quel point ils sont motivés, etc. Ben, en fait, c'est aussi super important dans une boîte.
C'est clair.
Et tu vois, ben, c'est pour ça que, d'ailleurs, je crois que j'avais une étude sur ça, en gros. Là, avec la propension au télétravail et tout ça, en fait, là où les gens sont les plus heureux quand ils répondent au questionnaire, c'est avec un télétravail partiel. C'est en
Ouais.
fait où ils viennent, tu vois, une partie, et du coup, ils voient les collègues, machin. Forcément, ben, quand tu vois la personne directement, t'es plus tenté de
C'est
prendre un
clair, ouais.
temps pour discuter et tout, que de lui envoyer un message, etc. Ou du coup, au contraire, tu peux zapper, même si tu peux avoir plein de réunions Teams, je dis pas, mais t'es moins encouragé à le faire. Et après, ben, quand t'es chez toi, voilà, t'es moins dérangé sur des sujets de fond
C'est clair.
et tout ça quoi. Donc encore une fois ouais, un truc un peu
C'est pas mal, on essaie
un
de faire aussi
équilibre.
un peu le télétravail pour faire des sujets de fond de temps en temps dans la semaine. T'as 2 jours, 3 jours. Nous, on le fait moins en tant que fondateur, mais on essaie de quand même de se garder un peu des temps là-dessus.
Et justement, tu disais que tu n'avais pas besoin parfois de te caler 2 heures focus tout ça sans distraction, sans rendez-vous. Comment t'arrives, mais tu m'avais aussi parlé de ça la dernière fois, à quel point c'était dur pour toi parfois de couper mentalement, alors du fait de
Ah oui.
sollicitations externes, mais aussi toi, hein, tout seul, le fait de
Mmh.
trouver des idées, machin et tout ça. Et pour pouvoir aussi bah, profiter de ton temps perso, qui est
Mmh.
important pour ton temps pro in fine, quoi, c'est quoi un peu les trucs que tu fais pour essayer de vraiment couper le plus possible, en tout cas, entre les deux? Est-ce que d'ailleurs tu le fais, parce que finalement on en a parlé, voilà, t'as tes
Ouais.
amis qui sont à la fois tes associés, donc pareil, t'as des choses qui s'entremêlent aussi, quoi.
Ouais, ça c'est vrai que ça joue aussi, je pense, un peu, mais après, on voit pas que aussi en dehors, du coup, on essaie.
Oui.
D'ailleurs, on essaie de se garder un peu des temps, je pense, pas forcément ensemble, parce que t'as vite tendance à parler des sujets boîtes. Mais Mais c'est marrant parce que c'était en fin d'année dernière et où c'était vraiment le, enfin c'était beaucoup plus le très prenant.
Tu peux dire le bordel, hein.
Moi je veux dire le bordel. Mais là j'ai pensé, je me suis dit, s'il y a des clients qui écoutent, s'il y a des machins qui écoutent, je me suis dit ta boîte c'est le bordel, bon d'accord. Mais maintenant elle est top, il y a plus de bordel. Mais effectivement en fin d'année dernière, t'avais les sujets de closing de levée de fonds, embauche d'une 5 ou 6 nouveaux profils dans la boîte, restructuration, mise en place de nouveaux pôles. Et du coup, ça fourmillait de énormément de choses, dont une pression et une charge mentale juste énorme. Depuis, ça, janvier, février, mars, c'était à peu près pareil. Globalement, c'était d'autres sujets, mais c'était toujours énormément de pression. Mais je sais pas pourquoi, j'ai réussi un petit peu à me détacher sur le reste du temps de ces, cette pression du boulot. Après, je pense que ça, c'est aussi dû au fait que il y avait un moment où il y avait une charge de travail qui était telle que je rentrais chez moi et me remettais à bosser, tu vois. Donc en gros, tu finissais à 21h, 22h. Bon, c'est clair que là, t'es reparti dans la nuit et puis t'as rien fait en fait. Là, on a nos bureaux du coup maintenant, et dans nos bureaux, tu peux finir ton sujet, tu finis à 19h, 20h, c'est pas grave. Mais après, tu rentres chez toi, t'es capable de couper un petit peu plus. Et en vrai, moi, j'ai la chance d'avoir le sport, d'avoir la musique aussi, d'avoir mes potes à Paris et de pouvoir me changer les idées quand j'ai besoin de le faire. Mais du coup, là, c'est une bonne période, je trouve, en ce moment, sur ce sujet-là.
Pas d'estival, ouais, c'est vrai que ça aide aussi. Mais oui, j'avoue que moi aussi, je fonctionne beaucoup comme ça, perso. Le fait d'avoir un endroit physique différent où je vais travailler versus où je vais faire mes loisirs.
Ouais.
Voilà, pour moi, ça joue de fou. Bah, bon, voilà, pour mon travail salarié, voilà, c'est sûr, je suis productif sur place. Mais même, pour Time Booster, par exemple, moi, l'essentiel de mes montages, là où vraiment j'avance le plus, c'est quand, je vais leur faire de la pub, moi, j'aime pas trop, mais bon, voilà. Mais c'est quand je vais au Starbucks à côté de Bastille, tu vois. Parce que voilà, il est à bonne distance de chez moi, machin, il y a plein de prises, machin, il y a Louis, tout ça. Et en fait, je suis productif de fou.
Okay,
dans cet endroit spécifiquement. Et je vais au Starbucks que,
pour ça.
J'achète un putain de café il a augmenté, il était à 1,80€ il y a un an, maintenant il est à 2,45€, je m'en fous.
Et tu passes après
je paye un café, j'y reste. Moi j'y reste 5 heures. Si tout si d'accord, tous les clients Starbucks c'était comme moi, Starbucks ferait faillite direct. Mais et en vrai ouais, ça m'aide vraiment de fou. Et versus parfois où je fais du télétravail chez moi parce que réunion machin, sujet un petit peu confidentiel et tout, ouais, à la fin de la journée, tu vois,
épuisé,
ouais. Ça m'est arrivé à un moment, vendredi soir, tu vois. J'avais passé toute la journée chez moi et tout ça. Je me suis dit, vas-y, faut que je sorte. Je vais sur la quai de Seine, même si j'allais tout seul, tu vois. Pour lire un livre, pour machin, même pas pour boire un coup et tout, il fallait que je sorte, quoi.
Ok.
Et donc, ça, c'était important. Et même des espaces aussi. Enfin, je trouve que c'est aussi dur pour les espaces numériques, tu sais. Par exemple. Pas avoir Teams ou des trucs comme ça sur un tel.
Totalement d'accord. Moi j'ai rien.
Je sais pas si t'as Slack toi ou
pas. J'ai Slack, Notion, Trello et tout. Je peux y aller dessus, mais j'ai zéro notification déjà qui pop.
Enfin, oui, ça c'est ouais.
Genre zéro notification et tu vois, même point de vue réseaux sociaux, tu vois LinkedIn qui mine de rien, moi dans le ton taf tu vas un petit peu. Je passe sur le téléphone, j'ai plus. Après j'ai un téléphone tout pourri, du coup c'est rangeant, c'est la croix à la bannière pour aller chercher quoi que ce soit sur le téléphone, mais tu fais en sorte de pas être sollicité. En plus je trouve que ça sert à rien. En fait il y a aussi ça aussi, c'est que il arrive un moment où tu mûris sur ces sujets-là en comprenant que t'es pas vital. Tu vois, t'es pas vital. C'est pas vital que là tu t'envoies ton truc maintenant. C'est pas vital que tu répondes à ton mail de suite. Il faut le faire à l'intérieur, un service client qui doit être irréprochable, machin et tout. Ça n'empêche pas. Tu seras plus efficace demain si t'as bien reposé ce soir que ce que tu l'es maintenant en envoyant un mail à minuit qui sert à rien.
Mmh. Bah ouais, quand t'es médecin de garde à la limite, là, quand ma cousine par exemple, parfois, ok, s'il y a une vie, un machin en jeu, mais bon. Alors, en général, pour la grande majorité des gens, effectivement,
c'est clair.
Bon, 24 heures, ça a jamais tué personne, quoi. Autre sujet un petit peu différent, j'avais vu, c'était. Une des interviews que tu avais faites, tu disais que en gros l'itération, le fait de faire des erreurs, tout ça pour toi c'était vachement important, c'est vraiment un passage obligé dans l'entrepreneuriat, quoi.
Ouais.
Et est-ce que tu pourrais partager depuis que tu as commencé cette aventure là, un des plus gros fails que tu as eu?
Un des plus gros fails.
Ouais. Là, à côté de ça, le bordel, ça va être vraiment
Ouais, ça va être Attends, le plus gros fail. Je.
Enfin, ou un fail.
Je pense que on a pu. Bon, après, en fait, tu fais que des conneries depuis le début. Hein. Tu te rends compte que tous les trucs bien que t'as fait, c'est parce que t'avais fait une connerie avant. Donc, globalement, on en a fait beaucoup. Récemment, typiquement, on s'est beaucoup planté sur tout ce qui était enjeu de gestion RH et notamment évolution au sein de la boîte. Comment impliquer tes salariés, aborder les sujets des négociations salariales, notamment, sans être maladroit, en donnant de la vision à tout le monde et à la fois en étant assez juste et en ayant des bonnes capacités pour la boîte. Et tu vois, typiquement, on est arrivé à un entretien, moi et mon associé, on avait en plus des salariés qui sont hyper investis dans la boîte, qui kiffent, qui sont, voilà, tout ça. En face, tu leur reprends un salaire, après, c'est pas contextualisé, c'est pas professionnalisé, tu sais pas ce à quoi tu peux prétendre. Enfin, ils savent pas exactement quels sont tes enjeux à toi et en même temps ils s'en foutent.
Bah, s'ils sont aussi un peu, entre guillemets, jeunes, tu vois, aussi, les gens chez Shingo, tu vois, en vrai, je pense que c'est pas pareil, tu vois, quand t'as peut-être 40 piges, je sais pas combien d'années de professionnel et tu vois, quand tu commences.
Ça dépend. Peut-être que c'est un peu différent.
C'est pas une loi générale, forcément, ouais.
Mais quand même, t'as une notion de management qui est importante. Et tu vois, à ce moment-là, nous, on a dit des choses qui étaient pas forcément adaptées, qui, je sais, ont pu vexer des gens et quoi que ce soit. Et à la fin, moi, je suis sorti, j'étais vexé aussi parce que tu savais, vraiment, on a fait un peu tout de travers parce qu'on se disait que c'est un peu acquis. Et derrière, on a beaucoup bossé là-dessus. On a mis du management intermédiaire, on a fait des choses un petit peu plus informelles, on a mis en place des grilles de compétences, des plans de formation pour donner de la visibilité à tout le monde. Et je pense que c'est en septembre l'année prochaine, donc je sais pas trop. Mais globalement, ça va mieux se passer parce que c'est beaucoup plus simple et parce que t'apprends tes erreurs là-dessus. Donc ça, je te dis ça, c'est pas très marrant, mais c'est un truc qui, je sais, nous a beaucoup affecté nous, tu vois, et qui a affecté du genre parce que tu fais des conneries, mais en même temps, si tu les avais pas faites, tu vois, personne n'est un manager inné quand il commence aussi. Alors après, t'as des trucs un peu actionnables, mais il faut faire des boulettes et puis avoir derrière l'humilité de dire que t'as fait des conneries aussi, tu vois. Moi, je trouve que c'est important. Tu te plantes, c'est pas grave, mais derrière, à quel point t'es capable de rebondir.
Non, mais pour moi, mine de rien, c'est effectivement normal, parce que, enfin, au travers du salaire, en fait, il y a aussi un peu la valeur de la personne qui se joue, la valeur qu'elle-même pense qu'elle a,
bien sûr.
La valeur que elle va penser que tu perçois chez elle. Et donc,
c'est ça aussi qui
est, en fait, c'est ça aussi. C'est pas, oui, il faut vivre à la fin du mois, il faut payer le loyer, tout ça. Mais en fait, tu vois, parfois, c'est ça aussi. C'est vraiment sur l'aspect émotionnel. Donc, c'est normal. Hein.
Ouais. Mais tout le temps, tu as cette partie-là. Effectivement, après, c'est sur les enjeux salariaux et le salaire et tout. C'est encore un autre sujet, mais ça y participe.
Ouais, de toute façon, l'aspect finance, c'est aussi, c'est relié à l'organisation aussi.
Bien sûr, il y a tout qui est entremêlé, ouais. Mais tu vois, nous, dans la boîte, on a posé des valeurs, mais pas nous, pas moi et mes associés, c'était tout le monde dans la boîte, ceux qui étaient à l'époque, qui sont d'ailleurs toujours là. On s'est posé en 2021, je pense que c'était un petit moment, on est là. On a mis 6 valeurs dans la boîte. Et parmi elles, il y avait le partage communication, qui était une valeur, partage communication, vraiment essayer de communiquer au maximum, parce que tu sais que tu vas faire des erreurs, mais t'es capable de communiquer, tu vas pouvoir en désamorcer une bonne partie aussi, et la bienveillance de un peu tout, en fait, notamment la bienveillance de toi par rapport aux clients, la bienveillance des partenaires vis-à-vis de toi en au sein d'une même équipe, et du coup ça participe aussi au fait que tu peux te planter, et c'est pas très grave de planter, mais c'est juste il faut savoir l'accepter, il faut savoir aussi accepter que les autres fassent des erreurs et puis derrière progresser par rapport à ça. Et la progression, voilà, tu vois, la progression c'est une troisième valeur qui est importante chez Nico. Qu'ils avaient appelé la débrouillardise à l'époque. C'est un peu la même ordre d'idée.
Oh, ça se rejoint, ouais. Bah, écoute, on est aux questions finales pour Nico, mais aussi toi d'un point de vue personnel. C'est quoi les principaux objectifs à venir sur les... Peut-être semaine, mois, année à venir.
L'année. Ben là, on a des gros projets. Côté Nico, on a remporté des jolis appels d'offres et des grosses métropoles qu'il faut qu'on arrive à délivrer. Donc ça, c'est très cool.
Super cool. Lesquelles
Je ne peux pas parler de tout, mais globalement, on vient de livrer Toulouse, Metz. Là, on a remporté un appel d'offres à Bordeaux.
Le terre-terre.
Et à Bordeaux, en plus, là, on est content. Tu vois, moi, j'ai descendu dans le sud. Mes parents, ils sont contents. Mais effectivement, il y a pas mal d'enjeux de livraison. Produits aussi, pareil. Des grosses features à sortir pour des clients. Et puis après, c'est un peu arrivé surtout à On a eu un peu une ligne directrice, tu vois, jusqu'au JO 2024. On s'est un peu mis ça comme objectif parce que Paris, ça a un peu participé, ça a participé à l'émission collective. On a des objectifs en termes de chiffre d'affaires, d'ARR, de satisfaction client. Un peu tous les pôles de la boîte sont indexés sur des objectifs communs. Et l'idée, c'est de un peu foncer de façon saine et efficace vers ces objectifs-là, en sachant que je pense qu'on est plutôt bien parti pour. C'est un peu la trajectoire de la boîte au sens large. Et moi, de mon côté, moi, je fais partie du pôle opération, donc je vais devoir livrer des prestations un peu ardues. Et donc, c'est bien, c'est hyper stimulant. Et moi, j'aimerais bien quand même qu'à la fin de l'année, on ait stabilisé un peu toute cette partie gestion, à la fois RH, financière, reporting, pour dire, OK, toutes les bases de la boîte sont très, très saines et il n'y a plus de sujets là-dessus. Et on peut capitaliser là-dessus pour aller scaler et puis faire des choses un peu plus grosses, larges et ambitieuses derrière, quoi. Mmh. Mais non, mais après, je me fais pas trop de doutes, honnêtement, là-dessus.
C'est quoi un principe ou une méthode d'organisation qui t'a vraiment aidé de fou, durant cette aventure-là?
Non, c'est dur d'en retenir une.
Bah, tu peux en dire trois, vas-y.
Non, mais je sais, j'en ai pas trois, en fait. J'ai plein de trucs.
Pas plus de trois.
Tu vois, ça arrive un peu sur le tard, la partie priorisation des tâches, parce que c'est le moment où on avait beaucoup de choses à faire. On a quand même un truc où, quand t'entreprends plutôt de manière générale, c'est faire plutôt que mieux, que parfaire, tu vois.
Mieux vaut fait que parfait.
Ouais, mieux fait que parfait. Et ça, c'était un gars de notre premier incubateur qui nous avait dit ça. Je me souviens son nom. Je me suis dit bon, que c'est un peu bateau. Et en même temps, c'est très très vrai. Si tu passes ton temps à faire des trucs parfaits, tu t'en sors pas. Et si tu veux essayer de, si tu fais juste les choses, t'auras du feedback très très rapidement. Et du coup, t'es capable d'itérer assez vite. Ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure.
Ouais.
Donc vraiment, l'expérience par le terrain et par l'action, ça c'est primordial. Moi, je sais que quand j'ai commencé, j'étais flippé par, je voulais pas appeler les gens et tout. Tu te dis vas-y, je vais écrire un super mail et tout. Ça va faire le même état que si j'appelle. Pas du tout, en fait. Il vaut mieux que tu passes trois coups de fil en un quart d'heure qu'écrire un beau mail que personne ne lira, quoi. Donc ça, c'est un précepte qu'on essaye d'avoir tout le temps chez Unico et qui, je trouve, participe au fait qu'on essaye d'aller vite dans notre développement. Et après, en termes d'organisation, moi, j'ai un peu un truc où... j'aime beaucoup le fait d'être réactif à toutes les demandes externes. Tu vois, typiquement, ce que je dis moi, les entretiens ou quand il y a des gens qui arrivent dans la boîte, c'est vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, des interrogations, je vous reprocherai jamais de m'avoir demandé quoi que ce soit, parce que je sais que tu peux pas tout savoir et que moi je peux t'apporter des choses qui pourront être intéressantes. Donc demande-moi. Je pourrais pas t'en vouloir de pas savoir. Par contre, je pourrais t'en vouloir de pas m'avoir demandé. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai pas sorti nulle part. C'était mon tuteur en stage à Vinci qui m'avait dit ça et qui m'avait, ça m'avait un peu mis sur le cul parce que bon, il l'incarnait à fond, mais aussi parce que c'est assez vrai, tu vois. Tu peux ne pas savoir. Par contre, je peux légitimement te reprocher de rester un peu dans ton confort et de pas demander, quoi. Bon, c'est un peu des choses, c'est pas des concepts organisationnels, mais par contre, c'est un peu des concepts de fonctionnement qui découlent derrière sur une méthode organisationnelle, en tout cas, comment vivre ensemble et bosser ensemble de façon assez,
assez saine. Pour moi, ça joue, parce qu'au final, si tu fais pas ça, tu vas perdre du temps, littéralement, ou alors tu vas faire des erreurs, tu vas devoir corriger après, et après, en fait, c'est dans les deux sens, de toute façon, puisque j'imagine ton manager, si, comme tu disais, il l'incarnait, il t'a dit ça, c'est qu'aussi, il avait instauré le climat de confiance pour que tu te sentes OK de lui dire. Parce que si au final, tu vois, je te dis ça, mais que derrière, en fait, tu vois, limite, je te réponds, mais je te taille un peu, ou alors, en fait, tu as le sentiment qu'à chaque fois que tu me poses une question, limite, ça m'énerve, et je te réponds de manière sèche, tu vois, ça va pas forcément t'encourager. C'est un échange, en fait. Mais ouais, carrément d'accord sur ça. Et trois outils d'organisation que tu utilises au quotidien qui t'aident vachement, dans ta vie perso, mais aussi pour Unico.
Vie perso, j'utilise pas tant que ça, mais moi j'ai un agenda quand même qui est pas mal. Enfin, c'est idiot parce que tu l'utilises tout le temps, mais l'agenda Google, mais nous, c'est ça
réduit tout le monde en a pas, quotidien. Un agenda.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais Je me souhaite un jour de pas en avoir besoin, tu vois, d'être libéré de tout souci d'agenda. Ça me ferait très plaisir. C'est un peu un objectif de vie, ça peut-être. Mais bon, en attendant, on a quand même pas mal besoin de s'organiser pour être non pas forcément efficace, mais surtout être serein dans tes tâches. Tu vois, je trouve que c'est bien parce que t'es moins dans le rush et c'est assez cool. Agenda à fond. Moi, je sais que Notion, ça nous a apporté énormément d'un point de vue structuration, documentation. Il nous a forcé à mettre par écrit ce dont toutes les choses qui étaient un peu non dites ou qui étaient moins tangibles au sein de la boîte, et du coup ça c'était important. Et après moi j'avoue, tu vois, j'aime bien Airtable, hein. Je pense que tu devrais t'y mettre un petit peu parce que bon, après faut que ça serve à quelque chose, hein, mais je trouve que c'est hyper intuitif, intégré à outrance et plutôt j'aime bien l'état d'esprit de la boîte qui est très ouvert vers l'évolutivité, le retour utilisateur. Et nous, ça nous a permis de vendre nos premiers contrats quand on a tout commencé. Donc, on vendait des formulaires, ça nous a fait retour terrain. Et après, on a développé une application par rapport à ces formulaires-là. Donc, plutôt cool.
Ouais, sur la donnée, d'autant plus quand tu vends du software, c'est la clé, quoi.
C'est clair.
Et toute dernière question. Alors, tu as déjà un peu répondu dans une autre interview, c'était si tu devais donner un conseil à ton toi en écologie qui commence un projet entrepreneurial et plus récemment une start-up, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors, moi, ce que j'avais noté, c'est que tu avais dit
à
un moment,
tu
avais dit de pas vouloir forcément griller les étapes, d'aller trop vite et accepter que son produit ou alors les chemins pour arriver là où tu veux aller, ils évoluent. Quel autre conseil est-ce que tu pourrais donner?
Ça, c'était un bon conseil, tu vois. Ça
rejoint, c'est le meilleur.
Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait de se planter, tu vois. Moi, j'ai toujours voulu me dire, moi, je suis trop fort, je suis meilleur que tout le monde, je vais arriver à griller les étapes. Par exemple, quand on me disait, là, t'es en phase d'amorçage, j'étais là, non, je suis pas en phase d'amorçage. Moi, je suis déjà en changement d'échelle. Tu te rends compte un an après que t'es largement à l'amorçage et puis t'étais bien, bien avant. Donc, voilà, tu prends les étapes les unes après les autres. Qu'est-ce que j'aurais pu me dire à l'époque quand je me suis lancé? Peut-être passer un petit peu plus, être un petit peu plus humble, je pense, effectivement, sur tout l'apprentissage ou les conseils que j'ai pu avoir autour, tu vois, en te disant effectivement tu pars de pas grand-chose et il y a beaucoup de gens qui sont capables de t'apporter de plein de manières. Que ce soit dans les incubateurs, dans les cours, dans quoi que ce soit, et qui en fait ont une légitimité le plus souvent à te raconter des choses parce qu'ils les ont vécues, quand bien même c'est pas forcément pertinent, c'est intéressant de les écouter. Mais à l'inverse, si on écoute trop tout le monde, après on fait plus rien, donc je me dirais pas ça parce que c'est bien d'être un peu prétentieux et puis d'avancer.
Faut quand même avoir un ego. Faut aussi croire vraiment en ce truc-là, quitte à parfois un peu partir la tête dans le guidon, mais faire, on va dire agir.
Ouais, non, c'est clair. Ouais. Mais peut-être que j'aurais peut-être un petit peu plus rapidement été me confronter au terrain et aller discuter avec des gens qui l'ont fait aussi. C'est-à-dire pas trop rester dans son écosystème. Tu vois, quand tu viens de Toulouse, que t'as jamais connu l'univers startup et tout, t'as un peu quand même un plafond de verre, mine de rien. On a fait école d'ingénieur, on a fait prépa, tu vois, qui est quand même très élitiste comme formation. Et on a eu accès à des choses. Et maintenant, on est à Paris, près de Pompidou, machin. Donc c'est quand même, on a eu accès à ces choses-là. Mais quand tu te lances et que t'es un peu isolé, que t'es pas forcément parisien, t'as pas fait école de commerce, etc. T'as un peu de plafond de verre et tu te dis, entreprendre, ok, c'est quoi, comment je peux faire, comment je peux passer. En fait, si tu vas vite parler avec des gens qui sont passés de près ou de loin, et il y en a, mine de rien, autour de nous, il y a des gens accessibles quand même qui sont prêts à parler de ces choses-là, ça permet de briser cette espèce de...
De croyance, truc, c'est... des gens particuliers.
Exactement, ce truc-là, le syndrome de l'imposteur, tu vois, qui est quand même énorme au début, ça permet aussi de le laisser s'évader un petit peu et d'être beaucoup plus serein dans ce à quoi tu peux prétendre. Et puis, de toute façon, c'est pas très grave. Hein. Je veux dire, quand tu te lances dans une aventure entrepreneuriale, si tu le fais sereinement, bien, et que tu prends toutes les précautions derrière, c'est juste une expérience unique que tu ressors toujours grandi de ce truc-là. Donc, voilà, essayer de, d'aller prendre du retour et puis t'enrichir de l'expérience des autres pour avancer plus rapidement.
Ok, top. Bah, je pense que c'est un parfait mot de la fin.
C'est vrai. Bon, mais cool.
Écoute, où est-ce qu'on peut retrouver principalement les activités sur Unico, j'imagine LinkedIn.
Ouais, LinkedIn beaucoup. Sur Internet, il faut mettre Unico France. Parce que tu mets Unico, ça fait Unico en espagnol, il y en a des millions.
Il y en a la moitié qui se trompent, qui mettent Uniqlo.
Exactement, Uniqlo. Mon père, il appelle ça encore Uniqlo, tu vois, après 3 ans. Mais bon, c'est bien, ça reste en tête, tu vois, au moins. Mais effectivement, ouais, sur LinkedIn, principalement. Et puis après, ça vous redirigera un petit peu partout. Hein.
Ouais. Ok. Top, super. Eh ben merci beaucoup pour cet épisode. J'espère, voilà, si vous êtes encore là, bah, laissez un petit pouce en l'air, des étoiles, tout ce que vous voulez. Vous faites partie, je pense, des 3% des meilleurs. Donc j'espère que vous aurez retiré un maximum de valeur de cette interview. J'ai trouvé vraiment super instructif pour ma part. Et voilà, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut Clément.
Salut, merci.